Ne manquez pas Les Pénibles, chaque mardi, 21h30, live, CISM 89.3 FM.
Salut, ici Marie-Céleste.
On sera en session live le jeudi 10 octobre, dès 19h.
Soyez là!
La session live, ça s'attrape en direct sur les ondes de CISM et à la réécoute au CISM893.ca.
Salut, on est Dear Criminals.
Vous écoutez CISM 893.
Salut tout le monde, il est midi, ici Mélissa, votre animatrice, pour une nouvelle émission sur Bulle d'écoute, où on se réunit pour parler actualité tout en restant dans l'intimité. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une cinquième émission aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur les ondes de CISM 89.3. En ce mardi 8 octobre, on a la chance, comme tous les mardis, d'être accompagné de nos super chroniqueurs et chroniqueuses, Maïna, Lauriane, Tristan et Anne-Lie. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui?
Allô,
allô, ça va bien?
Ensemble, on incarne la voix des étudiants finissant au certificat en journalisme de l'UDM. Chaque mardi, on s'empare du micro sur les ondes de CISM, la radio du campus de la Montagne, pour vous faire découvrir nos trouvailles, nos coups de cœur et pour survoler l'actualité ensemble. Aujourd'hui, au programme, on compte parler politique avec Lauriane, qui nous expliquera ce qui se passe du côté de l'Alliance sino-russe et des enjeux militaires. On va aussi parler d'immigration avec Tristan et d'innovation avec Maïna et Anne-Lie, qui nous parleront de dons de vulve et des enjeux d'éthique derrière. On voit beaucoup d'inégalités ces temps-ci dans le monde, mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce qui se passe du côté environnemental. Donc, ce matin, en lisant les nouvelles, j'ai vu que le mois de septembre 2024 a été le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Et ça risque de continuer comme ça avec une série record de chaleur qui fait que c'est presque sûr que 2024 va être l'année la plus chaude de l'histoire. Il y a eu la tempête tropicale Helene en Floride la semaine passée. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a l'ouragan Milton qui risque de faire d'autres dégâts aussi sur la côte est des États-Unis. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, j'ai vu ça hier.
Pas celui-là particulièrement, mais il y a tellement d'ouragans en ce moment. Genre, ouais, je voyais même rapidement en Europe tout ce qui se passe, tout ce qui se ramène. Je trouve ça fou.
Ouais, d'ailleurs, ils ont même dû fermer plusieurs écoles et aéroports à Orlando et Tampa depuis hier. C'est quand même grave, mais on espère que ça va bien aller malgré tout. Là-dessus, on continue avec Lauriane qui nous parle des enjeux militaires de la force sino-russe entre la Chine et la Russie. On la retrouve à l'instant.
Écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Oui, allô. Donc, le 10 septembre dernier, l'alliance sino-russe entre Pékin et Moscou a effectué une démonstration de force militaire et économique d'une envergure énorme. C'est un exercice naval qui a été surnommé Océan 2024. Ça a pris place dans la mer du Japon, située eh bien, entre le Japon et la Chine, qui aurait mobilisé, selon le Japan Times, 400 navires chinois et russes, 120 avions et hélicoptères et 90 000 soldats. Un exercice hors norme qui concrétise l'alliance sino-russe, des déclarations d'amour entre les deux pays qui prend des dimensions beaucoup plus assumées, qui sort des coulisses de la guerre en Ukraine, comme on sait. La Chine n'a jamais... a toujours supporté la Russie dans son invasion. Et Vladimir Poutine ne s'en cache pas. L'objectif de cet exercice hors norme, c'est de répondre à une présence militaire américaine de plus en plus grande aux frontières occidentales. Et on se doute aussi d'une tentative d'intimidation des pays voisins dont la Chine revendique les territoires. En effet, l'impérialisme de Pékin dans les dernières années a provoqué de nombreuses altercations violentes dans la région. Les gardes-côtes chinois ont pris pour habitude de martyriser et de décourager violemment les pêcheurs philippiniens et vietnamiens en endommageant leurs navires, mais en s'en prenant aussi directement aux équipages. La Chine assure que ce ne sont pas eux qui ont fait les provocations, mais qui ont été provoqués, alors que des vidéos prises et mises à la disposition semblent prouver le contraire. La Chine revendique en effet la ligne à 9 traits, le 9-9-line en anglais, qui englobe une bonne partie de la mer de Chine, dont Taïwan, et qui se prolonge jusqu'en Malaisie, en longeant les côtes du Vietnam et des Philippines. C'est un territoire immense. Et à voir, la Chine ne reconnaît donc pas les zones économiques exclusives maritimes établies en 1994 par les Nations Unies. Mais ces prétentions ne reposent sur aucun fondement juridique selon la Cour de justice internationale. Ça soulève, c'est des enjeux qui étaient déjà en place dans les dernières années, sauf que c'est la nouvelle ampleur de leur alliance font que ces enjeux sont d'autant plus criants aujourd'hui. Antoine Cliché, un diplômé en études libérales internationales qui a fait une partie de ses études au Japon, me disait que les États-Unis ont tout intérêt à contrer la Chine dans ses ambitions, malgré un risque d'une escalade du conflit, pour de nombreux points. Premièrement, on a Taïwan qui est une région particulièrement stratégique. C'est un des plus gros producteurs de microprocesseurs au monde. Pour ceux qui sont pas super à l'aise en technologie comme moi, des microprocesseurs, c'est le cœur de nos appareils électroniques en fait. C'est l'unité de traitement de l'information que tous les appareils électroniques ont. Et donc si la Chine parvient à s'emparer de Taïwan, ben elle a un quasi-monopole de cette production et le monde deviendrait dépendant des bonnes relations avec la Chine qui aurait un pouvoir très grand vu la place des technologies dans notre société en ce moment. D'où que les États-Unis s'engagent à défendre son allié Taïwan depuis 2022 de façon drastique si la Chine venait à poser des actes militaires. Les États-Unis se sont engagés à défendre militairement Taïwan. Un deuxième enjeu, aussi commerciaux, c'est que selon l'Organisation mondiale du commerce, le transport maritime représente plus de 80% du commerce mondial en volume. La mer de Chine est bordée par des ports internationaux de premier rang et ça constitue le principal lien maritime entre les océans Pacifique et Indien, ce qui lui confère une énorme valeur commerciale et militaire. Si la Chine venait à contrôler ses voies maritimes, ça pourrait devenir compliqué et beaucoup moins avantageux pour le commerce international. Et l'avenir de la liberté de navigation dans ces régions, bien, deviendrait un enjeu de taille. D'où que les pays occidentaux, en ce moment, ils sont très impliqués dans la région. Il y a également un enjeu de sécurité. Pour l'instant, Pékin est encerclé d'un grand cercle de colliers d'îles que forment les alliés américains. Donc, ça permet une certaine surveillance des va-et-vient dans le Pacifique de la Chine, mais aussi de la Russie et de la Corée du Nord. Monsieur Biden a assuré à la presse que le Quad perdurerait même, quelle que soit l'issue du scrutin à venir du 5 novembre prochain entre Kamala et Trump. Le Quad, pour ceux qui savent pas, c'est un dialogue de sécurité quadrilatéral entre le Japon, les États-Unis et l'Australie et l'Inde. Et c'est une mise en commun de données satellites qui permettent de suivre les mouvements des navires chinois. Donc, selon Biden, ça devrait persister, peu importe le résultat des élections. Mais tout laisse à croire pour l'instant que Kamala devrait garder la même ligne directrice. Trump est un peu plus imprévisible, mais on suivra dans les prochains mois c'est quoi les positions des États-Unis par rapport au conflit. Et finalement, il y a aussi un coût environnemental à toutes ces avancées de la Chine et de la Russie. On le sait, le climat, c'est une victime de moins en moins silencieuse, mais pourtant, ses impacts se font ressentir. Et là, je parle pas seulement des impacts des tests militaires. On peut penser au sonore des navires j'ai le terme en anglais dans ma tête, disturb, dérange certaines espèces animales. Il y a aussi les déchets de tous ces essais de missiles. C'est aussi un autre aspect, c'est que ce qui est bon à savoir, c'est que depuis 2014, la Chine est le premier pêcheur en mer au monde. Un poisson sur six pêché dans le monde est pêché par Pékin. Et au large des côtes chinoises, la biomasse marine a baissé de 90% en un demi-siècle. C'est bon à savoir parce que les poissons et les fruits de mer, c'est une des dernières grandes sources de protéines sauvages. Oui, je t'en prie.
Donc la biomasse, parce que moi je suis vraiment nul en que ça soit biologie, etc. C'est quoi en fait?
C'est tout ce qui est pêché quand on parle de fruits de mer, crabes. Je suis pas une experte en biologie marine, je vais être honnête avec toi, mais c'est tout ce qui est, je pense, qui fait partie des sources de protéines sauvages près des côtes chinoises.
OK.
Donc, c'est énorme. Et c'est une forme de subsistance importante et qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir. Et un tel monopole des voies maritimes pourrait impacter la sécurité alimentaire mondiale si la Chine venait à avoir un plus grand pouvoir sur le transport maritime. Donc, ils pourraient être moins susceptibles de se soumettre aux lois internationales par rapport à la pêche intensive et par rapport à toutes les autres lois de liberté de navigation, en fait. Mais ça, c'est un gros sujet qui pourrait faire état d'une autre chronique plus tard, peut-être, dans l'émission. Moi, je vous conseille, par rapport à cet enjeu-là, d'écouter le film Le Chant du Loup. C'est un film français écrit et réalisé par Antonin Baudry, qui fait un peu allusion à la...
Oui, mais c'est intéressant, mais oui, le film, ben, ça parle de quoi? T'allais le dire oui. À l'instant, là, mais vas-y.
En fait, c'est une histoire de sous-marin russe. Et, on pense que les Russes nous envoient un missile nucléaire depuis un sous-marin. Mm-hmm. Alors, l'Amérique réagit, mais il y a des procédures militaires. Bon, là, ça sort un peu du jet, mais il y a des procédures militaires qui font en sorte que les Américains répliquent. Finalement, c'est une erreur. C'est les Russes qui ont provoqué pour que les Américains attaquent en retour. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, tu sais, tantôt, je parlais de sécurité. Comme les États-Unis peuvent un peu observer les va-et-vient dans le Pacifique, la Chine, en ce moment, pour se rendre dans les eaux les plus profondes, indétectables, de façon indétectable de ses sous-marins, ben, elle ne peut pas, pour l'instant, vu les alliés des Américains. Donc, c'est quand même un gros enjeu si la Chine arrivait à se rendre plus facilement dans les eaux profondes.
C'est un film fictif ou
c'est fictif.
Oui, c'est fictif. Okay.
Ben, un très bon film qui est joué, l'acteur principal, c'est François Civil, très bon acteur français. Puis pour les chauvins bretons, ce film-là se déroule à Brest, quasiment intégralement dans la rade de Brest. Petite info.
Mais c'est vraiment un bon film.
Ouais, il est bien.
Puis ça met des bons enjeux en place, ça fait réfléchir.
Mais ce sera à voir. Merci Lauriane pour ce partage.
Ça fait plaisir.
C'est certain que cette alliance grandissante entre ces deux pays mérite d'être suivie de près, surtout avec les élections américaines en perspective qui pourraient aussi changer la donne. Pour l'instant, place à la musique avec Matt Boudreau et son titre « What about toi pis moi ». On se retrouve à l'instant.
Le soleil se couche une autre fois devant nos yeux. Où sont les frisbees? Tout le monde est parti. Faut croire qu'il y avait plus de tonnes à mettre dans le feu. La braise fait des éclairs dans les bouteilles de bière. La chanson ralentit au rythme de la mer. Les nuages se dispersent, les paroles en naufrage. Et si le pire vient briser nos cœurs, le tien trotte dans ma tête comme un tonnerre dans le noir. What about toi pis moi? What about moi pis toi? Comme si t'étais l'année pis juste dans la nuit. What about toi pis moi? Qu'est-ce que tu fais là? La nuit est longue et quelqu'un s'amuse à voler toutes les étoiles dans le ciel. L'amour est égoïste, la mer est morte parce que la lune est triste. C'est elle qui nous l'a dit qu'une tempête veut s'ennuyer. Et si jamais l'ouragan veut t'emporter au loin, je te laisserai pas filer comme du sable dans mes mains. What about toi pis moi? What about moi pis toi? Comme si t'étais la lune et juste dans la nuit. What about toi pis moi? What about us? We'll be right back.
De retour sur les ondes de CISM 89,3, c'était What About Toi puis Moi de Matt Boudreau. On se retrouve maintenant avec Tristan pour discuter d'un enjeu qui revient souvent ces temps-ci, celui de la vis qui sert en immigration au Québec. Je laisse la parole à mon collègue qui vous expliquera comment on a pu survoler le sujet dans un court reportage audio.
Hey, Tristan, si tu me permets de faire une petite parenthèse avant que tu passes sur ton sujet. On parlait du film Le Chant du Loup tantôt. Ben, j'ai voulu confirmer, parce que j'allais faire quelques petites recherches. Le film réalisé par Anthony Boudry, en fait, met en scène la force navale française et non pas américaine contre les Russes. Donc, une petite précision que je voulais faire, une petite erreur quand même grande. Mais allez quand même voir le film, ça en vaut vraiment la peine.
Ça vaut la peine, je suis d'accord. Avec Mélissa, on est parti à votre rencontre pour capter vos impressions quant aux nouvelles directives en matière d'immigration. Ça bouge beaucoup en ce moment au Québec et peut-être que vous, auditeurs, êtes concernés par ces directives gouvernementales.
En effet, on écoute dès maintenant notre reportage à moi, Mélissa Samanouelette et Tristan Dagorne, où l'on a pu discuter avec deux personnes qui ont accepté d'être interviewées. Marco, qui étudie en droit à l'Université de Montréal, et Denis ont tous deux accepté de répondre à nos questions, donc on écoute ça à l'instant.
Le 19 août dernier, le gouvernement du Québec a annoncé le gel à partir du 3 septembre du programme des travailleurs étrangers temporaires pour 6 mois dans la région de Montréal. Ce gel ne concerne que les immigrants voulant résider à Montréal et gagnant moins de 57 000 $ par an.
Une situation difficile pour certaines personnes qui comptaient sur ce permis pour immigrer au Canada. Ce gel, censé durer 6 mois, s'inscrit dans une politique de réduction des nouveaux résidents temporaires au Québec au moment où la ville de Montréal passe à travers une crise du logement sans précédent.
Moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de la France, justement. Si ça m'inquiète, personnellement, non, mais voir avec les gens avec qui je cohabite, oui. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être accessible à tous, surtout qu'à l'étranger, c'est beaucoup plus cher. Donc oui, je dirais que ça m'inquiète.
De plus, le gouvernement a également annoncé récemment qu'il comptait réduire de 10% le nombre de permis d'études au Québec. Le nombre de permis d'études passerait de 2024 à 2025 de 485 000 à 437 000 visas étudiants.
Fait que c'est une situation qui est exceptionnelle. L'immigration, c'est bon, parce qu'on est un peu vieillissant, puis ça prend de la jeunesse, puis on ne fait pas d'enfants. Il y a un gros problème en Chine, je devrais aller checker ça, avec un tiers des Chinois qui sont 65 ans et plus.
D'après le vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable de l'Université Laval, François Gélineau, la décision du gouvernement Trudeau risque de nuire au pouvoir d'attraction de talents de l'université en provenance de l'international.
C'est sûr que c'est un gros enjeu par rapport à l'immigration. Par contre, concernant la crise du logement, je pense que la crise du logement, c'est beaucoup plus sur l'inflation que sur l'immigration. Je pense qu'on manque pas de logement. Je pense que c'est vraiment juste par rapport à la qualité de vie. Donc, je pense pas que ça serait vraiment par rapport aux étudiants étrangers, non.
Ces changements ont été annoncés après que des experts ont averti le gouvernement quant à la forte croissance démographique exerçant une pression sur un marché du logement déjà tendu. Ottawa avait déjà annoncé une réduction de 35% de permis délivrés par rapport à 2024.
Mais on n'a pas de logement. Puis ces nouveaux arrivants-là, on a des gens partout dans les rues, dans des tentes. Ces gens-là sont logés à l'hôtel. Ça fait que, tu sais, il y a ça aussi qui n'aide pas à avoir une opinion favorable à ce qu'on les accepte, mais il faut les accepter. Mais pas en aussi grand nombre, selon nos capacités.
Ce gel de visa temporaire intervient après que plusieurs associations ont demandé au gouvernement de mettre fin à ce genre de visa, déplorant, je cite, « un terreau fertile pour l'esclavagisme ». À Montréal, il existe plusieurs centres communautaires venant en aide aux nouveaux immigrants et étudiants internationaux. Un reportage de Mélissa Samanouelette et Tristan Dagorne.
Depuis ce reportage, François Legault a annoncé qu'il voulait davantage serrer la vis. Il a annoncé que la moitié des 160 000 demandeurs d'asile au Québec, soit 80 000 personnes, devraient quitter le Québec pour d'autres provinces. Ayant pour but, selon ses dires, d'alléger et de contrôler davantage l'immigration au Québec, comme on l'a d'ailleurs mentionné dans le reportage, cela, selon le Premier ministre, allégerait la crise du logement à Montréal notamment. Ayant déjà suspendu il y a quelques semaines les permis fermés pour les personnes touchant moins de 57 000 $ par an dans la région de Montréal, pour une durée de 6 mois. François Legault poursuit une politique de réduction drastique de l'immigration au Québec, après la réduction aussi des permis d'études de 10% pour la rentrée 2025. En janvier dernier, le Premier ministre déclarait que les immigrants étaient responsables à 100% de la crise du logement. De grosses tensions depuis sont nées par la suite entre Québec et Ottawa. La province demandant à Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, de réduire les immigrants temporaires dans la province francophone. Il a d'ailleurs répondu à son homologue québécois sur la question de l'expulsion des demandeurs d'asile que c'était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Ottawa s'est clairement dit prêt à défendre les droits fondamentaux des personnes concernées et Québec solidaire, le parti québécois, se dit même horrifié par les déclarations de M. Legault. Selon l'Observatoire des inégalités raciales au Québec, le discours actuel sert une fonction distractive en dirigeant l'attention vers l'immigration plutôt que vers le manque d'investissement en logement dans les années précédentes. Et selon plusieurs organismes, cela pourrait clairement impacter la hausse des discriminations envers les personnes immigrantes. Rendre responsable des milliers de migrants sans la moindre remise en question de la part du gouvernement est irresponsable, tant ce genre de discours peut amener vers des amalgames et de gros amalgames. Au niveau fédéral, Mark Miller, le ministre de l'Immigration, a annoncé une série de réformes qui comprend la baisse de 35% du nombre d'études, de permis d'études délivrés dans les deux prochaines années. Le rétablissement de l'obligation de visa pour les ressortissants mexicaines et mexicains, ainsi qu'un plan visant à faire passer de 6,2 à 5% la proportion de résidents temporaires au sein de la population canadienne d'ici 2027. La tendance est donc à la baisse drastique, qui plus est quand on sait que les prochaines élections fédérales canadiennes approchent à grands pas. En automne 2025, les citoyens et citoyennes canadiennes devront élire leur prochain premier ministre et d'après les derniers événements et sondages, les conservateurs devraient possiblement l'emporter, mettant Pierre Poilievre au pouvoir. Et cette tendance amènerait encore plus de doutes quand on connaît les politiques anti-migratoires des conservateurs. Étant concerné de ma part, vu que je suis immigrant français, c'est clairement compliqué dans le sens où les personnes qui veulent immigrer pour longtemps ici, moi quand je prends mon exemple par exemple, parce que je pense que c'est pertinent, après mon permis d'études c'est un permis fermé, et puis ce permis fermé là, bah, je peux pas le faire si je gagne moins de 57 000 $ par an, ce qui fait que je serais obligé de déménager à l'extérieur de Montréal, parce qu'il faut le dire aussi, ce permis fermé là et cette interruption là, c'est pour 6 mois, sauf qu'on sait très bien que le gouvernement va clairement le prolonger. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des milliers de personnes qui devront déménager, qui devront partir de l'île de Montréal pour aller en région, pour aller à Québec. Puis ça, c'est problématique pour plusieurs personnes.
Pourquoi déménager de Montréal?
Ben en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que le permis d'études, le permis fermé, un permis fermé, c'est une entente que tu passes avec ton employeur. Et en fait, c'est l'employeur qui paie ton permis. Ça a été décrié beaucoup par certaines associations pour parce qu'on parlait d'esclavagisme moderne. En fait, tu peux pas changer d'employeur. En fait, c'est ton visa est lié avec l'employeur que t'as. Donc, si possiblement ça fonctionne pas avec cet employeur là, eh ben t'as pas le choix de continuer parce que tu peux pas, à part trouver un autre employeur qui te repérerait encore un autre permis. Mais bon, c'est vraiment compliqué là. Et en fait, en réponse à justement ces associations-là qui disaient d'arrêter ces permis de travail fermés-là, ils l'ont fermé pour les personnes qui gagnaient moins de 57 000 par an, mais sur l'île de Montréal, pour 6 mois. Donc ça veut dire que les personnes-là qui terminent un permis d'études, qui ont déjà fait leur PVT, permis vacances-travail, et qui veulent immigrer de manière sur le long terme au Canada, ne pourront plus passer par le permis de travail fermé sur l'île de Montréal. Ça veut dire qu'une personne qui vit à Montréal possiblement devrait partir en région sur la rive sud par exemple c'est ça. Et puis François Legault a beaucoup dit que c'était à cause de la crise du logement et que ça libérait possiblement 3500 personnes qui partiraient et ça laisserait la place aux Québécois et Québécoises. Mais ça se discute. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que c'est vraiment très discriminant. Ça peut apporter beaucoup d'amalgames et de discrimination sur les immigrants.
Mais dans ce cas, ça vient chambouler tout ce qui avait été mis auparavant, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait justement un projet de loi qui avait été mis en place pour nous, par exemple, les étudiants étrangers qui finissions nos études, comme quoi l'accès à, par exemple, la résidence permanente, ça allait être beaucoup plus facile. du coup, ça vient effacer tout ça?
Non, ça reste. C'est juste, par exemple, pour mon cas, après la fin de tes études, tu as un permis de post-diplôme. Ça, c'est toujours le cas.
Ouais.
C'est juste que, pareil, encore une fois, il va y avoir des réformes qui vont être faites. Et le permis post-diplôme, il va avoir des réformes encore là-dessus, ce qui fait que ça va compliquer encore les choses. Moi, j'ai vu que c'est un certificat. Après, ça, c'est que un an. Après, quand tu fais une maîtrise, c'est 3 ans de permis post-diplôme. Mais après, t'es un an là. La résidence permanente, c'est très compliqué. Là, à part si t'as une maîtrise, tu peux faire un permis spécial. C'est juste que ça vient chambouler en fait les personnes qui font pas forcément d'études. C'est surtout les personnes qui font pas d'études qui sont impliquées. Et immigrer au Québec va devenir de plus en plus difficile pour des raisons qui sont discutables.
Mmh. C'est spécial aussi de voir comment, tu sais, dans notre reportage, on a parlé à plusieurs personnes, puis la plupart des gens étaient concernés, immigrants ou pas. Tu sais, on manque aussi de main-d'œuvre au Québec, on le dit souvent, donc c'est un peu particulier comme paradoxe, un peu. Là.
C'est ça. Et puis, comme le disait notre Denis, il nous a bien dit que lui était d'accord avec le fait d'accueillir des immigrants avec la capacité du Québec, mais qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde, etc. Mais. C'est surtout le lien fait entre la crise du logement et l'immigration qui est beaucoup décrié dans les médias, et surtout le fait d'expulser 90 demandeurs d'asile du Québec. Il aimerait mettre des périodes d'attente, en fait, comme en France, il se passe déjà des sortes de camps de réfugiés ou des camps d'attente pour ces demandeurs d'asile-là qui seraient transférés possiblement dans d'autres provinces. Je sais pas si on se rend compte vraiment des mots, mais c'est quand même poignant. Là, tu peux pas demander à 80 000 personnes de partir dans notre province juste parce qu'il y a trop de demandeurs d'asile au Québec.
Ouais.
C'est quand même
difficile. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux accepté. Ça fait quand même moins d'émeutes que, par exemple, en France, si tu dis que tu vas faire une loi qui va régir l'immigration, là-bas, direct, ça va partir en émeute, direct, ça va partir en non, mais le gouvernement sait plus ce que c'était, etc. C'est pas du tout les mêmes mentalités.
Ouais, c'est différent, ouais.
C'est certain que c'est un sujet préoccupant au Québec. Tristan, merci beaucoup pour ce partage. Et on prend une courte pause et restez avec nous parce qu'au retour, on parle de dons de vulve avec Anne-Li et Maïna. En attendant, on écoute La paix, c'est mort de Tabac Carton Fit Sensei. À tout de suite.
Dis-moi la vérité dès le début, je veux pas perdre mon temps. Je te dis ça comme si c'était pas déjà le cas. Alternance nuisible, le sol et le divan ont pris la forme de mon désespoir de façon délicate. La ville m'entoure quand je marche dans ses rues. Aucune sortie de secours, alors je défonce la serrure. Je n'ai pas respecté le thème parce qu'il ne correspondait pas. Depuis l'époque de la princesse, je ne fais plus confiance au roi. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, toi. Tu crois que tu fais mieux qui? Et dire que j'ai douté de votre impertinence. Vous avez fait de moi ce que je suis, la personne que je fuis à l'intérieur de moi. C'est fou combien le temps. Je me suis perdu dans tes yeux qui ne voient pas combien je pleure. Je cherche encore ce moment depuis lequel tout me fait peur. Je t'ai pardonné pour tes erreurs qui continuent de me détruire. Cette voix dans ma tête à qui j'ai décidé d'obéir. On s'est démarré la machine mais on sait pas l'éteindre. Pour l'amour du ciel, donnez-moi la force d'aller au bout de mes rêves. Avant de fermer la porte, avant de succomber à l'idée que la vie en vaut moins la peine que la mort. Et qu'elle aura raison de moi si je la laisse habiter mes pensées. Sensei H, la mago, t'es beau.
Check. Un swing de fois appliqué une de grosse money, led comme Tyson. Ton pro SCS garde un oeil sur. Je dois remonter jusqu'au panthéon, c'est Aiden. Man, push le whip, il faut shy plus. S'entend, ça paraît court, de toute façon, un peu c'est mort. Puis tantôt, ça va péter, j'ai besoin que ça gèle les forts. Tout est temporaire, je peux même plus croire que la perle est rare. Les textes après d'être transcendés, il faudrait alerter les gosses. Les choses et ceux sont incapables de fact-check. À côté du sucre, m'en garde un fat dress. Big, je maîtrise tous les aspects. Ma tête me dit non, mais mon cœur se bat. Ces jours si je rêve éveillé, puis ça me laisse descendre. Le mensonge est un lambeau à vérité, frappe la STM. Je prends un sip, je prends un smoke, gros j'alterne le vice. Sous le micro je m'évade, je vis à peine le stress. Je garde l'âme solide, je suis bien dans l'eau frais. J'évite d'être sceptique de mes propres size links. Je suis pas dans l'algorithme, je suis dans l'intemporel. Le système maîtrise ce que tu make it. 1, 2, 3, 2, 4. Succès NCH, plus dope que Doudou Crack. Sous le soleil, la brousse soulage. Pose l'apocalypse, moi laisser des bouts d'ouvrage. T'es un petit peu, j'ai pas fini. Ça jouait sous le midi, puis il était déjà minuit. Les vagues sous l'ampli, le guitare se fait comme Jimmy. Le labo c'est une jungle, puis ça go dans qui comme qui dit. J'suis capable de partir le whip, mais j'ai de la misère à calmer l'engin. J'évite le charme de la tristesse, j'suis fuck à mes anciens. Écoute les billets, sans j'aime pas parler en vain. Les jeunes sont fous, ils achètent des straps pour cramer l'ancien. De toute façon, la paix c'est mort.
C'est un pic, c'est même ça se passe, toi sois certain de la donne.
Tabac carton. sans sucre, SNCH.
Bien représentatif du mouvement hip-hop franco-ricain rap joie.
T'écoute.
De retour sur CISM 89,3 La Marge, c'était La paix c'est mort de Tabac Carton Fit Sensei. On passe maintenant à notre prochaine chronique avec Anne-Lie et Marina qui vont nous parler d'un sujet complexe et souvent méconnu, les dons d'ovules. Un enjeu éthique et pratique, surtout en ce qui concerne l'inaccessibilité des dons et l'existence d'un marché noir dans certains pays. Les filles, je vous laisse la parole dans un instant.
Oui, allô à tout le monde. Le don d'ovules au Québec, ça peut être un privilège pour certains, mais ça peut être un parcours un peu plus difficile pour d'autres. Il y a beaucoup de familles que accéder au don d'ovules, ça peut être un processus très coûteux et très long. Le gouvernement du Canada au Québec dit que c'est possible d'avoir un recours à une donneuse faisant partie de son cercle d'amis proches ou de la famille. Ça peut accélérer le processus par rapport à ceux qui attendent sur des listes d'attente. Ou parce que c'est dû à un faible de quantité d'ovocytes, en plus justement d'être très coûteux. Ça peut apporter des frustrations sur du monde qui sont sur des listes d'attente, tu sais. Donc, la question est, pourquoi avoir recours à un don d'une personne proche? L'aspect financier, comme je disais, ça peut être un gros frein à recourir à un don d'ovule, parce qu'au Québec, dans le cadre d'un projet de procréation avec fécondation in vitro, FIV, que je vais souvent utiliser comme terme, les services sont assurés par la RAMQ. Pour, selon vous, combien de cycles, combien d'essais?
Aucune idée.
Je pourrais pas dire non plus...
Genre, est-ce que vous pensez que dès la première fois, ça fonctionne ou pas?
Bah non.
Ouais,
si vous posez la question, c'est que...
c'est fact. Ouais, mais vous pensez que ça prend combien d'essais?
Je sais pas.
4 à 5 fois,
ouais.
Ouais,
pareil, ouais.
Ça prend plusieurs essais, mais la question, c'est plus que, dans le fond, la RAMQ couvre le premier essai et c'est tout. Okay. Puis ce qui est malheureux, c'est que le don d'ovule, aller chercher un ovule en clinique, c'est souvent pas le premier qui est utilisé, mais le plus coûteux. Donc, si tu as utilisé un service de FIV, que ce soit une fécondation in vitro standard, un prélèvement chirurgical de spermatozoïdes, un transfert d'embryon, un don d'ovule, etc., ben c'est le premier essai qui est remboursé à vie pour une femme. Puis, le don d'ovule, comme je disais, c'est vraiment le premier utilisé. Donc, la question, c'est est-ce que c'est juste pour les familles qui sont sur des listes d'attente pour d'autres femmes qui vont chercher des donneuses potentielles avec des amis ou un cercle proche. Tu sais, ça peut poser des questions d'équité vu que il y a pas d'argent qui est impliqué ou il y a pas de liste d'attente non plus impliquée. J'ai eu une rencontre téléphonique avec une personne ayant eu recours justement à un don d'ovule de la part de sa sœur. Je tiens à mentionner qu'elle tenait à garder le tout anonyme pour protéger son enfant qui voudra pas nécessairement que l'information se rende publique plus tard. Je vous parle un petit peu de sa situation. Elle et son conjoint ont essayé pendant 6 mois d'avoir un bébé. C'était vraiment difficile. Ils sont passés par des cliniques de fertilité, l'insémination artificielle, ça n'a rien donné. Ils ont essayé aussi la fécondation in vitro qui n'a pas fonctionné. Elle n'avait pas d'embryon non plus, fait que le transfert d'embryon ne fonctionnait pas. Puis en plus, dès le premier essai, comme je disais tout à l'heure, c'est pas remboursé par la RAMQ, fait que les frais étaient rendus très élevés. En plus, elle était rendue fin vingtaine, donc encore moins de chances de tomber enceinte. Et il faut ajouter la cerise sur le sundae, elle était atteinte d'une douleur chronique. C'est la sensibilisation du système nerveux. Donc, la médication du FIV, ça augmentait ses douleurs. C'était pas vivable. Ça la limitait physiquement et psychologiquement. Écoutez, elle était rendue au bout du rouleau. Fait que là, je trouvais ça pertinent de comprendre les raisons qui l'ont poussée à elle à demander à un membre de sa famille au lieu de passer par les cliniques de dons. J'ai aussi demandé les avantages que ça avait procuré et j'ai abordé les questions d'équité par rapport aux familles qui n'ont pas accès à cette chance.
Donc, ma sœur était au courant de toutes nos démarches. Elle savait aussi là, que c'était un processus très difficile, que j'avais beaucoup de peine. Puis aussi, elle-même, elle voulait que j'aie un enfant. Elle voulait un neveu ou une nièce. Donc, à un moment donné, ça m'a proposé de l'aide sans trop savoir vraiment quel type d'aide. Elle connaissait pas vraiment ça. Pour elle, c'était quasiment une offre d'être mère porteuse. Mais là, je lui ai parlé du don d'ovule. Puis c'est comme ça que ça en est venu. Puis aussi, c'est ça, dans le fond, j'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec ma sœur. Je sais pas si j'aurais fait ça si on avait des chicanes familiales et tout. Mais dans ce cas-ci, j'avais quand même confiance.
Selon vous, c'est quoi les avantages d'avoir recours à un don familial, justement, comparé à celui peut-être d'une personne anonyme?
Ben en fait, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, point de vue médical, c'est qu'on connaît très bien le background médical de la mère biologique de mon enfant, étant donné que c'est ma sœur. Donc là, dans ce cas-ci, on va être vraiment au courant. Donc ça, c'est un premier avantage, point de vue médical, mais c'est aussi point de vue identitaire, je dirais, pour mon enfant. Dans le fond, il n'aura pas à se poser la question à savoir, tu sais, c'est qui ma mère biologique, elle ressemble à quoi, quel genre de vie elle a, pourquoi elle a fait ça. Tu sais, il va avoir accès à sa mère biologique, ça va être sa tante et sa marraine aussi. Donc, il va pouvoir lui poser toutes ces questions, il va pouvoir la connaître, il va pouvoir créer le lien qu'il veut créer avec elle. Donc, c'est quand même assez le fun.
Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que le don a fonctionné du premier coup?
Oui, c'est ça. En fait, suite à la ponction, la ponction est quand même assez douloureuse. Par contre, là, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important de le dire aussi. Là. Donc, résultat positif, ce qui était vraiment formidable, surtout que je ne m'attendais à rien. Donc, c'était vraiment le fun pour ça, oui.
Est-ce que vous pensez pouvoir peut-être vous faire lancer des rushs pour avoir eu recours à un don familial, tu sais, parce que c'est plus accessible que des familles qui doivent attendre des années sur des listes d'attente d'une clinique?
Oui, c'est sûr que je pense pas qu'il y ait tant des années d'attente en clinique. Par contre, les coûts sont très dispendieux pour les dons d'ovules là, via les banques de dons. Donc, je suis très, très chanceuse. Puis, ouais, effectivement, je suis privilégiée.
Ben en effet, par contre, il y a un gros manque de donneuses d'ovules au Québec avec des prix très hauts. Tu sais, ça rallonge vraiment les délais pour des couples en attente, puis il y en a beaucoup. Je vais vous parler un petit peu des chiffres. En juin 2023, il y a eu 2315 demandes de dons d'ovocytes qui étaient encore en attente. Rappelons qu'il y a des règles très strictes concernant la rémunération ou toute compensation financière pour les donneuses au Canada, contrairement à d'autres pays. Tu sais, le fait que les dons soit pas rémunéré, ça encourage pas à donner. Ça fait qu'il y a un gros manque en clinique parce qu'il y a des grosses démarches, il y a des douleurs, il y a des effets secondaires, fait que c'est important de le mentionner. On en parle justement plus tard avec Maina. Ce manque limite l'offre d'ovules disponibles pour les cliniques, puis ça augmente à des dons familiaux. J'ai eu 2-3 réponses aussi de d'autres familles qui voulaient me contacter, mais on s'est limité à une, mais c'est plein d'exemples comme celui-là. Ça rend la situation un peu plus équitable justement pour ceux qui doivent attendre. Cet enjeu d'accessibilité-là, c'est souvent lié à des défis financiers, tu sais, comme je disais, les coûts, les traitements. Aussi, il y a des barrières légales et médicales parce que tu peux pas faire ça chez vous avec une infirmière. Il faut que tu fasses ça en clinique. La personne que j'ai interviewée, justement, aborde les impacts financiers sur les familles qui discutent aussi des réformes potentielles qui rendraient le système de fertilité plus équitable. Et on rappelle que ça, c'est selon elle.
L'infertilité, c'est un problème grandissant dans nos sociétés. Puis je pense que, oui, le gouvernement sait bien qu'ils aient décidé de couvrir par la RAMQ au moins une fécondation in vitro, mais selon moi, ils pourraient en faire plus, considérant que c'est vraiment un problème grandissant dans la société. On pourrait couvrir plus qu'une fécondation in vitro. On pourrait aider justement les gens qui ont besoin d'avoir recours à des banques de dons également.
Ce problème concernant la fertilité, ça amène une pénurie et ça amène à du marché noir. L'équipe en jeu de Radio-Canada a découvert il y a quelques années qu'il y avait un marché noir actif au Canada où les personnes vendent leur sperme ou d'autres proposent leurs ovocytes. L'équipe d'en jeu s'est fait passer pour quelqu'un de stérile pour tester les choses. Puis après avoir publié plusieurs annonces, il y a une vingtaine de personnes qui se sont proposant leur ovule pour un prix variant de 2 500 à 6 000 $ par ovule. En raison de la rareté des ovocytes disponibles pour des cliniques de fertilité, il y a du monde aussi qui se tourne désormais vers Internet, des groupes Facebook, des forums. J'ai deux exemples ici qui dit, c'est anonyme évidemment, « Bonjour, je vends mes ovocytes au plus offrant et où ?» au plus proposant, car j'ai besoin d'argent pour monter un projet dans un pays en développement. Je laisse ici mon adresse. Je suis en excellente santé physique et mentale. Déjà maman deux fois. Je ne fume pas, je bois pas et je me drogue pas. PS, annonce très sérieuse. Ou à l'inverse, il y a quelqu'un qui recherche des ovocytes. Bonjour, mon conjoint et moi tentons de notre chance pour trouver une fille dans ce groupe qui accepterait de nous faire ce don.
Et ça, c'est sur Facebook?
Oui.
OK, carrément. Donc,
oui, je me suis inscrite à quelques groupes justement pour fouiller. Puis il y a vraiment du monde qui disent « J'ai besoin d'argent, je vends mes ovocytes. » Ils déclarent qu'ils sont en excellente santé, ils proposent pas un suivi médical nécessairement, mais c'est « Je vends mes ovocytes » ou « Je suis prêt à tout pour trouver quelqu'un. » qui pourrait m'en vendre.
C'est légal ou est-ce que c'est quand ils sont trouvés ces
groupes? Ah, c'est marché noir, ça. Il y a aucun, c'est pas légal sur de rémunérer ou de passer par, il faut que tu passes par clinique.
Est-ce que tu sais si ça fonctionne, s'il y a des gens vraiment qui vont au marché noir tellement, genre, ils ont besoin de justement d'avoir des enfants?
Ben, l'enjeu,
énormément de messages. Ouais. Énormément. Tu mets juste don ovocytes sur Facebook et t'as tellement de messages qui s'affichent, des groupes. C'est.
OK.
Puis l'équipe Enjeux Canada, justement, de Radio-Canada, ils se sont vraiment fait passer pour quelqu'un de stérile, là. Fait que la personne était prête à aller en clinique pour faire les démarches. Mm. Puis, justement, il y en a qui font du marché noir dans certains pays. Donc, ça peut mener à un marché illégal où les personnes, il y en a qui se rendent dans d'autres pays pour vendre leurs ovocytes ou à l'inverse pour aller en chercher par manque d'argent. Tu sais. Justement, on en parle avec Maïda.
Mais en fait, ça pose un énorme problème d'éthique parce que chaque pays a sa propre loi et vision concernant le don d'ovocytes. Au Canada, par exemple, comme elle l'a expliqué à Annie, c'est illégal de payer quelqu'un pour ses ovules, mais il est permis pour une receveuse de compenser les dépenses d'une donneuse. Donc tout ce qui est transport, hébergement, visite jusqu'à la clinique, etc. Parce que ça en prend plusieurs, des visites. Chez nos voisins français et belges, le don d'ovocytes, c'est pas rémunéré. Les frais médicaux sont pris en charge par l'assurance maladie, donc la RAMQ. Et puis les frais non médicaux, donc encore une fois tout ce qui est hébergement, transport, peuvent être pris en charge par l'hôpital sur présentation des justificatifs. Donc en fait, elles reçoivent une petite compensation aussi pour la perte de salaire causée par le temps nécessaire au don. Contrairement à la Suisse, où là-bas c'est totalement interdit le don d'ovules. Donc on voit bien que dans les pays où le don il est légalisé, on parle vraiment de faire un geste pour une personne qui est dans le besoin. Et donc c'est un don qui est purement humain et de bonne volonté. Étant donné que c'est pas rémunéré. Mais est-ce que c'est pareil partout dans le monde? Eh bien non. En fait, c'est de là que part tout le problème. Il y a énormément de personnes, de couples qui se rendent à l'étranger pour recevoir des dons, pour plein de raisons différentes, hein, que ce soit la législation du pays, prix, limite d'âge, les délais d'attente, etc. Mais ce qui veut dire que si les gens partent à l'étranger, c'est aussi parce qu'il y a davantage de donneuses dans les autres pays. Par exemple, en Europe, on retrouve des classements des pays les plus populaires pour recevoir des dons. Selon IVF Media, le premier pays en Europe qui est choisi, c'est l'Espagne, qui est choisi par plus de 44% des patients, suivi de la Grèce et de la République tchèque. L'Espagne, c'est vraiment la capitale du don d'ovocytes en Europe. C'est le pays qui réalise plus de la moitié des traitements de dons d'ovules en Europe. Et c'est aussi le plus grand fournisseur d'ovules de donneuses du continent. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que toutes les donneuses vont là-bas? Et bien, en fait, parce que l'Espagne et les autres pays, en fait, ben, ceux que j'ai cités, ils font partie des rares pays où le don est rémunéré. Alors quand je parle de rémunération, on parle plutôt d'indemnisation. C'est une indemnisation beaucoup plus importante que dans les autres pays. À peu près 1000 euros en Espagne, 1200 euros en Grèce. Donc on arrive quand même, mine de rien, à faire un petit bénéfice. Dans la même lignée, on ne peut pas oublier les USA. Là-bas, en fait, un don peut rapporter entre 5000 et 10 000 $ US. Ce qui représente entre 6700 et 13600 dollars canadiens. Je me suis renseignée, dans une clinique à Los Angeles, on peut percevoir entre 10 000 et 13 000 dollars US pour les premières donneuses, sachant que la majorité du temps, elles reçoivent finalement plus de 20 000 dollars pour un cycle. Sachant qu'on peut donner jusqu'à 6 cycles, ces ovocytes. Donc en fait, ça crée un énorme fossé entre les différents pays. Comme Annie, elle a pu en parler, on a des listes d'attente qui se comptent en années, des pénuries de dons, un marché noir qui s'est créé. Les gens, ils veulent pas donner. Alors, mais c'est ça en fait, pourquoi passer autant de temps dans un long processus sans rien avoir en échange, surtout que dans les pays qui utilisent le terme d'indemnisation, c'est justement en fait pour créer un flou juridique entre oui on vous paye, mais en même temps non. Alors on se pose la question, pourquoi ne pas les rémunérer? Mais en fait c'est justement le fait de recevoir de l'argent en échange d'une action qui pose un problème éthique selon plusieurs pays, parce que justement ça enlèverait l'humanité du geste, mais surtout par crainte d'une marchandisation du corps humain. Et c'est ça en fait, avec le risque d'ouvrir la porte à l'exploitation des plus vulnérables, c'est des gens qui se retrouveraient comme un peu dans le pétrin, comme tu sais, va vendre tes ovules, tes ovocytes, comme ça va nous faire de l'argent.
C'est un peu au même titre que vendre son corps, là, tu sais.
C'est ouais. Ça. Mais c'est exactement comme Cassandra Jones, une jeune New-Yorkaise de 28 ans qui a donné ses ovules pour rembourser son prêt étudiant. Comme elle explique dans son entrevue pour un article, elle a cumulé déjà 3 emplois et en fait, le seul moyen de se faire un peu d'argent en plus, c'était de donner ses ovules. Et avec 5 séries de dons, Cassandra, elle a ramassé plus de 50 000 $, ce qui a remboursé son prêt étudiant. Je sais pas vous, moi je m'envole directement aux USA, hein, parce que moi aussi j'ai un prêt étudiant. Mais voyez la réaction que je viens d'avoir, en fait, c'est tout là que de que ça part en fait le problème. C'est une décision poussée par l'aspect financier. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que d'un côté, on a des listes d'attente à rallonge, une pénurie de dons, on a besoin des ovules des personnes pour les gens dans le besoin, mais on ne veut pas les rémunérer parce qu'on va tomber dans une commercialisation, dans un trafic, on ne veut pas que ça devienne autre chose qu'un geste humain qui est fait pour la bonne volonté, ce qui est compréhensible. Vas-y,
mais comme on a déjà discuté, l'affaire, c'est que là, c'est illégal de rémunérer puis de faire un marché noir. Mais le monde, il trouve un moyen d'aller ailleurs faire ce marché noir.
Mais c'est ça. De l'autre côté, on a des personnes qui sont prêtes à donner, qui sont volontaires, mais qui le font pas parce qu'ils n'ont rien en contrepartie. On veut empêcher un marché noir en interdisant la rémunération, mais les gens, ils partent quand même ailleurs pour recevoir ou donner des dons à l'étranger. Exact. Parce que ça fonctionne pas dans leur pays de toute façon.
Oui, puis c'est quand même beaucoup d'argent, mais tu sais, on parle de quelque chose qui pourrait être donnant-donnant, dans le sens que pourquoi on le fait pas au Québec, tu sais, alors que ça se fait dans d'autres régions du monde qui sont à côté de nous, littéralement. Donc, la justification, je la vois pas vraiment, dans le fond.
Mais c'est ça, parce que c'est fou, parce que donner ses ovules, c'est pas un processus anodin. Hein. Pour un don, il faut se rendre à la clinique plusieurs fois, entre 5 à 6 fois. Il y a des prises de sang, de la médication, des injections, ça prend pas une semaine, là. C'est un gros processus. Fait que donner gratuitement, c'est pas donner à tout le monde. S'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de motivation, qu'est-ce qui va donner aux personnes l'envie de prendre le temps et de traverser ce processus, sauf si c'est pour une personne importante pour eux, comme elle le disait Annie, tu sais, si c'est par rapport à quelque chose qui se passe dans la famille. Et surtout que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller chercher des ovules dans d'autres pays. Le voyage, l'organisation, ça coûte cher, il n'y a pas tout qui est remboursé. Donc au final, il n'y a rien qui contribue à la réduction des listes d'attente.
Puis il faut considérer aussi que tu achètes un ovule, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne au premier coup non plus.
Puis au Québec, me semble, on a quand même beaucoup de problèmes au niveau de la fertilité, justement. Et tu sais, ça serait bien qu'on soit plus là-dessus puis qu'on essaie de trouver des solutions en place ici chez nous, tu sais.
Alors pourquoi ne pas laisser la place à la rémunération? Les donneuses, elles reçoivent leur compensation, elles l'utilisent comme bon leur semble. Les personnes en attente d'ovules, elles vont bénéficier de ce dont elles ont besoin. Donc au final, chaque partie est satisfaite. Alors pourquoi ne pas réfléchir sur une stratégie qui pourrait satisfaire tout le monde? En surtout qu'il y a tellement de possibilités pour régir tout ça, puis faire en sorte que chaque partie soit satisfaite. C'est des rendez-vous psychologiques, on pourrait organiser tellement de choses. Surtout qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. En France, par exemple, le président Emmanuel Macron, il avait mis en place, il y a quelques mois, un plan de réarmement démographique. En d'autres termes, en gros, c'était des mesures pour rehausser le taux de naissance dans le pays. Et bah justement, une rémunération, ça pourrait faire partie de ce plan-là. Il y a tellement de choses qui pourraient être mises en place. Moi, je serais down d'essayer. Il y a quelques mois, en plus, je m'étais renseignée sur des cliniques. Mais voilà, tu sais, t'as toujours la peur de... est-ce que c'est une bonne clinique où je vais m'en aller? Tu sais, comme j'ai personne qui y a été ou qui l'a fait, qui pourrait me donner sa rétroaction, puis que je puisse me dire, OK, c'est bon, c'est fiable. Bah, après, personnellement, il y a aussi tout ce qui est hormones qui me dérange un petit peu parce que ça fait partie du processus, mais pour que tes ovules puissent fonctionner, il faut, tu sais, comme les stimuler, puis d'où les injections, d'où la médication. Puis moi, je sais que j'ai eu énormément de problèmes avec l'acné, fait que je me dis, dealer encore avec des hormones, pas trop pour moi.
Et je pense que le problème aussi que tu notes sur le réarmement démographique de Macron, justement, c'est important de le souligner parce que je pense que c'est vraiment important de mettre de l'argent et d'injecter de l'argent dans des associations qui aident justement les personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Là, dans mes recherches, j'ai vu qu'il existe des associations comme les Cigognes de l'Espoir en France qui aident les personnes qui souhaitent bénéficier d'un don d'ovocytes. Et c'est ça. Et je pense que c'est important de mettre vraiment le point là-dessus et de l'argent là-dessus au lieu de faire culpabiliser certaines personnes peut-être qui veulent plus d'enfants dans notre génération, où je pense qu'il y a énormément encore de personnes de notre âge ou même de la trentaine, la vingtaine qui essayent d'avoir des enfants et qui peuvent pas parce qu'il y a pas assez de moyens qui sont injectés dans la médecine, surtout dans ce secteur-là de la médecine.
Ouais. C'est surtout que c'est peu connu. Tu sais, j'en parlais à ma mère, j'étais comme, ouais, je vais parler du don d'ovule aujourd'hui à la radio, et puis t'es comme, de quoi tu me parles? Fait que c'est pas connu. Alors que ça pourrait clairement être une stratégie qui pourrait être mise en place. Hey, t'imagines, tu pars aux États-Unis, tu reviens, hop, tu t'es fait 10 000 $. Fait que, tu sais, forcément, les gens, c'est de là où vient le problème. Tu vois le problème d'éthique, puis tu dis, ouais, mais c'est motivé que par quelque chose de financier. Ben oui, mais pour gagner mon argent, j'aurais pu me tourner vers quelque chose d'autre. J'aurais pu avoir une autre job. J'aurais pu aller au casino. J'aurais pu jouer au loto. Enfin, il y en a plein d'autres. Ben non. Je fais mon geste. Ça va bénéficier. Ça va être bénéfique pour quelqu'un. Et en même temps, moi, j'ai ce dont j'ai besoin, puis ce que je recherche.
Puis il y a moyen aussi que ce soit bien contrôlé, tu sais, par les services médicaux, justement, au lieu de faire ça sur marché noir, puis que ce soit un peu fait en dessous de la ligne, là.
Faut juste que ce soit pour les bonnes raisons, mais oui.
Ouais. Ouais.
Est-ce qu'on sait si c'est le même principe que l'adoption, l'enfant, est-ce qu'il y a le droit, les lois changent un peu par rapport à ça, mais est-ce que l'enfant, le parent donneur, pardon, tu sais où est-ce que je m'en vais un peu?
Oui, mais dans le fond, il y a un contrat qui est signé.
OK.
Avec la personne qui donne et la clinique. Puis en plus, après, il y a un suivi psychologique pour les trois, l'enfant, la donneuse et la receveuse. Donc, mais oui, il y a un contrat qui empêche, comme l'adoption, d'avoir accès à l'enfant.
Le suivi est fait avant la donation ou après la naissance de l'enfant?
Pendant le processus de grossesse aussi. Okay.
Mais ouais. On pourrait avoir le même débat avec les mères porteuses. Tu sais, aux ouais. États-Unis, pareil, les mères porteuses peuvent être rémunérées, mais dans la majorité des pays d'Europe, ben, c'est pas autorisé.
Et ici, c'est juste la... Excusez. Ici, c'est juste la... Je pense qu'il y a juste une compensation financière en Ontario, mais au Québec, c'est pas légal.
Ouais. Mais justement, ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est important de mettre de l'argent là-dedans, parce que ça va inciter les personnes. Tu sais, par exemple, je pense que c'est quand même quelque chose qui est quand même suivi, qui est quand même par une équipe médicale, etc., quand c'est légal. Et puis je pense que ce cadre légal-là, bah, il permet aussi d'accepter des personnes, tu vois, qui veulent faire un don d'ovocytes ou une famille qui veut des enfants. T'as quand même une analyse, t'as quand même souvent peut-être des psychologues, j'en sais rien, qui étudient le dossier, etc. Donc c'est tout ça, c'est pour les bonnes raisons, sûrement, quand c'est dans un cadre légal. Donc le mettre, injecter de l'argent là-dedans pour que ça soit dans un cadre légal et que ça incite les gens à suivre ce cadre légal-là, ça apporterait aussi le fait que les personnes qui sont vraiment désespérées de pas forcément avoir d'enfants, bah, ne partiraient pas dans le marché noir où là, il n'y a pas de cadre légal. Ça pourrait être pour les mauvaises raisons que tu donnes l'argent à une personne qui fait un don d'ovocytes, etc. Donc, je pense exact. Que...
Mais tu vois, j'ai été surprise. J'en ai parlé au début où la Suisse est interdite, alors que la Suisse, bah, c'est quand même un pays qui est vraiment bien développé, même en termes de médecine, etc. Mais il n'y a pas que ça. Don d'ovules, don d'embryons, mère porteuse, tout ça, c'est totalement interdit. Pareil, c'est la même chose en Allemagne, en Suède, il me semble. J'aurais jamais pensé qu'en 2024, ce serait totalement interdit dans ces pays-là, tu vois. Fait que ça enlève la chance à certaines femmes qui doivent voyager jusqu'à l'étranger. Mais encore une fois, tu sais pas si la clinique, elle va être bien. Tu sais pas où est-ce que tu t'embarques.
C'est prendre des risques.
Ouais, tu prends des risques, puis on touche à ton corps. On parle d'une grossesse, là, tu sais, on ne parle pas d'un vaccin ou autre chose. On parle d'une grossesse qui touche ton corps, puis qui va impacter, oui, ton corps dans les prochaines années, mais toute ta fertilité. Enfin, c'est énorme comme sujet.
Et je sais pas si je peux faire une petite transition justement avec Octobre Rose, etc. Mais je pense que je sais pas si tu en avais parlé exactement, parce que je pense qu'il faut aussi noter le fait que ça a des risques comme toute opération, parce que ça reste une opération, je pense aussi, même dans un cadre légal, t'es piqué localement pour avoir une opération,
anesthésie,
etc. C'est ça. Et c'est ça, je pense que t'as quand même des risques. C'est pour ça que, encore une fois, je le répète pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est important d'avoir un cadre légal quand même, pas faire des bêtises, parce que ça peut aussi, selon mes recherches, apporter une probabilité accrue de cancer du sein chez les personnes ayant subi ce genre d'opération, etc. Et des recherches qui ont été faites là-dessus. Et en plus, c'est Octobre Rose, donc c'est la prévention contre le cancer du sein. Donc je pense que c'est important d'en parler.
Ouais, c'est ça. Pour nos auditeurs, si jamais vous êtes pas au courant, Octobre Rose, en fait, c'est une campagne annuelle mondiale destinée à la sensibilisation pour les femmes, en fait, pour le dépistage du cancer du sein, et aussi à récolter des fonds pour la recherche. Donc c'est le petit ruban rose. N'hésitez pas à le porter sur vos vêtements pour qu'on soutienne tous. C'est notre mois à nous.
Oui, écoutez, c'est déjà l'heure bientôt pour nous de se quitter et de se dire à la prochaine pour une autre émission sur Bulle d'écoute. Merci encore d'être parmi nous en ce mardi midi. Avant de se quitter, j'aimerais juste souligner, oui, comme vous l'avez dit, que c'est le mois d'octobre qui est le mois rose, mais c'est aussi le mois pour la sensibilisation du TDAH, pour ceux qui ne le savaient pas. Le TDAH, qui est un trouble qui touche 5 à 8 de la population. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu avant de se quitter. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, ou vous avez des gens dans votre entourage qui ont le TDAH ou qui ont ce TDA aussi? On en parle vraiment beaucoup ces temps-ci.
Je trouve que des fois, on en parle même un peu trop. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens que, tu sais, sur TikTok, tu vas toujours avoir des trends de « Ah, j'ai ce symptôme-là, j'ai du TDAH. »
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auto-diagnostics de TDAH, puis c'est comme une mode, on dirait.
Mais c'est diagnostiqué hyper rapidement. Puis moi, j'ai un petit cousin qui a été diagnostiqué, et ça a eu des vraiment gros impacts sur lui quand il était médicamenté, ça le rendait complètement amorphe. Mm-hmm. Plus d'énergie pour faire aucun sport, plus d'énergie pour jouer. Il faisait juste s'écraser tout le temps. Fait que moi, je sais pas comment je me sens par rapport à la médicamentation.
Ouais, ouais, puis c'est jeune. En plus, tu dis que c'était un enfant.
Oui, oui, il y avait 5-6 ans.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'était rendu que c'était utilisé pour le calmer. Tu sais, pour.
On perd. Ouais, ben je dis pas que c'est recommandé, mais j'ai des amis qui prennent ça juste dans le cadre d'un examen.
Ouais, exact. Ouais.
Fait que ça t'amorphe 2-3 jours, mais après ça la vie reprend puis t'es pas. Moi aussi j'ai vécu la médication quand j'étais plus jeune, puis c'est vraiment quelque chose. Ça te fait perdre du poids, ça coupe l'appétit, ça t'amorphe.
Ça change toute ta personnalité.
Oui.
En fait.
Puis dans le fond, le TDAH, c'est pas mauvais. Des fois, la médication, c'est comme si ça rendait la chose négative.
Mm-hmm. Pour te calmer, pour te... Ouais.
Puis je me demande si ça joue pas aussi sur la confiance des enfants qui, quand ils savent qu'ils sont médicamentés, après ça, ils pensent que s'ils réussissent à l'école, c'est grâce à ça. Mm-hmm. Et ils développent pas nécessairement les outils personnels pour gérer leur surplus d'énergie. Que les enfants avant, oui, ok, les notes sont un peu impactées, mais au moins, tu sais, c'est pas juste les notes qui comptent dans la vie. Ton TDAH, il impacte aussi tes relations interpersonnelles et tout. Et ça demande de développer des outils personnels pour se réguler. Puis je sais pas si la médicamentation.
Oui, ça touche beaucoup la performance.
Ouais. Ouais, c'est peut-être pas la seule solution, la médication.
On a tombé de la misère.
Désolée. Mais je pense que c'est une solution facile. Là. Je suis pas un médecin, mais dans le sens que.
Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a un problème, tu veux toujours médicamenter, pas toi, mais
moi,
tu fais un thème général qu'on veut forcément avoir la solution, puis médicamenter les gens, puis se dire genre, ok, un problème de
la moins, solution ouais. rapide.
Alors que les personnes qui ont un TDA, que ce soit avec le H ou pas, ils ont tellement de créativité, ils ont tellement d'idées, et ils ont tellement de sujets de conversation qui sont hyper pertinentes. Et justement, quand je les voyais qui prenaient la médication, mais je crache pas sur la médicamentation, tu sais, forcément c'est bénéfique. Il y en a, ça se trouve qu'ils adorent ça, puis ils veulent pas s'en débarrasser non plus, mais ça change tellement la personnalité d'une personne. Puis, je regardais un peu les statistiques, ça se voit sur le site du CADAC, les garçons sont 3 fois plus susceptibles d'être diagnostiqués. Mais par contre, la recherche, elle indique que 75% des filles ayant des problèmes d'attention ne sont pas diagnostiquées. Mais quand on parlait des traînes, etc., c'est... en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un fossé entre les deux. C'est soit t'es pas diagnostiqué, puis tu sais, comme une fois que tu l'es, les gens sont comme « Oh non, je suis désolée pour toi ». Enfin, tu sais, c'est comme si c'était une maladie. Mm-hmm. Puis t'as les gens qui vont se vanter puis qui vont faire leur autoproclamation. Puis ça va devenir toute leur nouvelle personnalité.
Ouais. Ouais.
Moi, je suis sûre que je suis TDA. C'est juste que j'ai jamais été. Tu sais, souvent, je suis dans la lune. Mais je pense que tout le monde l'est un petit peu. Là. Faut pas non plus, genre.
S'auto-diagnostiquer.
Internet, je pense que ça pose beaucoup de faux diagnostics aussi. Ouais. T'es comme, ah, ben eux, ils ont fait ça. Ben moi aussi, je dois l'être dans ce cas-là.
Mais il doit y en avoir des cas vraiment qui ont besoin de médication. Là. Mm-hmm. C'est pas ça qu'on dit, mais il faut faire attention.
Ouais. Ouais, exact.
Mais on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Donc, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Merci tellement d'avoir été avec nous sur Bulle d'écoute. Pour réécouter nos émissions ou nous écrire sur des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou bulle-d'écoute.officiel. Vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions et celles-ci sur Spotify, Apple Podcast et sur le site du CISM au cism893.ca. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Merci d'être entré dans notre bulle sur les ondes de CISM 89,3. La marge, bonne semaine à tout le monde. On se dit à la prochaine.
Bonne semaine.
Bye.
Bonne semaine.
Merci.
Hey yo, c'est Dope Gang.
Dope Gang.
Vous êtes à l'écoute de CISM.
Let's go.
Y'a du lourd dans la caisse, tu veux fuck avec la gang, baby. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il colle et il shot, parce que toi, tu brettes.
Tous les mardis dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Pourquoi j'ai choisi le cégep du Vieux-Montréal? Parce que j'ai trouvé ma place dans un programme à la hauteur de mes ambitions. Pour son campus vert, en plein cœur de Montréal, facilement accessible en métro. Pour ses professeurs d'expérience qui ont à cœur mon bien-être et ma réussite. Je l'ai choisi parce que ses valeurs me parlent, me ressemblent. Le cégep du Vieux-Montréal, un cégep ouvert d'esprit. Vivez-vous aussi l'expérience EVM durant nos portes ouvertes le samedi 26 octobre, de 13h à 16h.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I'm sin. The rush, the excitement, the guilt and the shame. When the good and the bad looks the same.
Chant, danse, humour, slam, théâtre, poésie. UDM en spectacle est à la recherche du meilleur de la scène étudiante. Venez faire votre numéro devant jury en vous inscrivant aux auditions avant le 11 octobre sur vieétudiante.umontréal.ca.
Vous faites des compositions originales en français ou en langue autochtone? Pour obtenir de la visibilité, gagner des prix, des bourses, faire des rencontres professionnelles et artistiques, il faut vivre l'expérience des Francouvertes.